Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter aujourd'hui sur le retour d'expérience logiciel libre au lycée Carnot de Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais avec Romain de Bailleul et Pascal Bell, tous les deux professeurs NSI, numérique et sciences informatiques, mathématiques. Alors, visiblement, ils se sont connectés vu le bruit que j'entends. Alors, ce qui est marrant, c'est que lors d'été, ça n'avait pas du tout ce bruit-là. Est-ce que vous nous entendez ?
Alors, nous, on t'entend très bien.
Ouais, alors là, vous avez changé quelque chose par rapport à tout à l'heure, parce que là, on a un super bourdonnement dans l'oreille. Mais bon, on va faire avec, hein.
On a débranché un truc, ouais. Mais alors, attends.
Là, c'est mieux, ne touchez plus à rien.
C'est mieux, là ?
Ah oui, ne touchez plus à rien, merci.
Eh ben, j'ai trouvé, c'était mon téléphone.
Voilà, ok. En fait, c'est heureusement que vous n'êtes pas des utilisateurs d'exercice qui disent « Oh, j'ai touché à rien », entre le test et la production. En tout cas, n'hésitez pas, les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à participer à notre conversation. Vous pouvez nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou encore sur le site directement libreavoue.org. Il y a une zone de chat qui s'affiche. Donc, on va parler donc de logiciel libre au lycée Bruay-la-Bruissière dans le Pas-de-Calais. Un petit retour d'expérience d'un projet absolument formidable. Et on va commencer. Alors, je précise que donc Romain de Bailleul et Pascal Bell sont tous les deux donc dans leur salle de cours dont on va parler. Et on va commencer par une petite question de présentation personnelle rapide. On va commencer par Romain.
Alors bonjour, moi je m'appelle Romain de Bailleul, je suis professeur au lycée Carnot de Bruay-la-Buissière, tu l'as dit. On est professeur, alors moi je suis professeur de mathématiques et de NSI. La NSI c'est la nouvelle spécialité informatique du bac général.
Pascal.
Oui bonjour, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Libre à vous. Et moi j'enseigne aussi la nouvelle spécialité NSI dans le bac général, mais aussi j'interviens aussi dans le bac technologique, en STI 2D, dans la spécialité SIN, Système d'Information et Numérique.
Voilà. D'accord. Alors NSI c'est Numérique et Sciences Informatiques. Alors après la présentation personnelle rapide, on va présenter aussi peut-être le contexte, parce que le lycée Carnot de Bruay-la-Buissière, dans le Pas-de-Calais, ça ne dit pas forcément grand-chose en termes de nombre d'élèves, nombre de profs, nombre d'ordinateurs. Donc, est-ce que l'un de vous deux veut nous présenter rapidement ce lycée Carnot ?
Oui, alors je vais m'y coller. Le lycée Carnot, c'est un gros lycée du bassin. On a plus de 1600 élèves. Hein. On est entre 1600 et 1700 élèves, 150 profs. Donc, on a vraiment un établissement qui est prégnant sur le secteur. On a toutes les sections. Ça, du professionnel jusqu'au bac général, en passant par le technologique. On a aussi du BTS. Donc vraiment, on peut dire qu'on a une grande représentativité au niveau des sections d'enseignement. Au niveau de la population, je ne sais pas si je peux enchaîner.
Oui.
On est dans un bassin où la population est assez mixée. Nous, en termes d'éducation, on parle d'IPS. Alors, je ne vais peut-être pas faire des choses trop techniques, mais il faut savoir qu'on a...
C'est-à-dire quoi, IPS ?
Alors, l'IPS, c'est l'indice de position sociale.
D'accord.
C'est ce qui indique si les familles sont en difficulté financière ou pas.
OK.
Bon, on a un IPS qui est assez bas, la population est mixée, mais c'est vrai qu'on a quand même un paquet de familles qui est en difficulté financière, hein. On ne peut pas le dire autrement. Hein.
D'accord.
Donc, historiquement, une région minière.
Oui, tout à fait. Ouais. Ok. J'ai juste précisé, parce que tout à l'heure, dans l'introduction, Pascal a parlé de STI 2D. STI 2D, ouais. c'est le bac, donc Sciences et Technologies de l'Industrie du Développement Durable. Voilà.
Parce que, c'est ça.
On nous posait la question, Marie-Odine nous posait la question sur le salon web. Donc, je salue d'ailleurs les personnes qui sont sur le salon web. N'hésitez pas à poser des questions ou faire des remarques, je les relayerai. Donc, 1600 élèves, combien de profs ? 170 profs, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Et au niveau ordinateur, vous avez combien d'ordinateurs ?
On a un parc machine d'environ 800 ordinateurs qui sont connectés au réseau.
Ok, d'accord.
Et sinon, on a deux salles qui sont dédiées purement à l'informatique et qui sont accessibles à tous les enseignants, sur réservation. Hein. Donc, deux salles qui fonctionnent uniquement sous Windows. Et on a ouvert, nous, la troisième salle qui, elle, est entièrement sous logiciel libre et accessible aussi à l'ensemble de la communauté éducative du lycée.
D'accord, on va y revenir. Juste une petite question, 800 PC, ordinateurs pour 1600 élèves, 170 profs. Alors j'ai du mal à imaginer, est-ce que c'est beaucoup d'ordinateurs ? Est-ce que c'est peu par rapport à, on va dire, une moyenne ?
On est assez bien doté au niveau informatique. Oui, on a une dotation qui est intéressante, mais il faut savoir qu'en fait, la passerelle technique a besoin de plus de machines. Il y a peut-être plus de machines au niveau des bacs technologiques qu'au niveau des bacs généraux.
Oui. Ok. D'accord. Donc là, on voit un peu plus la présentation de ce lycée donc des personnes qui sont dessus. Avant de commencer à faire un peu le retour d'expérience et puis la question sur le début de l'expérience, en tout cas du projet logiciel libre au lycée Carnot, vous, à titre individuel, depuis quand utilisez-vous, donc soit à titre personnel, soit à titre professionnel, des logiciels libres? Quand est-ce que vous avez commencé, Romain?
Alors, en ce qui me concerne, moi je viens de. J'ai 48 ans, je viens un peu de la scène alternative Atari, Amiga quand j'étais plus jeune. Donc j'ai toujours connu un petit peu l'alternative à ces modèles Apple et Microsoft. Je connaissais que Microsoft que dans les établissements scolaires. Et puis dès que, on va dire que les logiciels libres, surtout via le système d'exploitation Linux, est arrivé, je m'y suis collé. Donc fin des années 90.
D'accord, et Pascal.
J'utilise que,
oui,
moi, j'utilise que ça, hein, vraiment. Moi, j'essaye de. Il y a plus de Windows à la maison. Hein. J'ai mis tout le monde, hein, ma femme, ma mère, ma belle-mère, tout le monde y a eu droit. Hein.
Ok. Et bon, de ton côté, Pascal?
Ouais, moi, en ce qui me concerne, c'est un peu différent, puisque, ben, comme tout élève et enseignant, j'étais biberonné à Windows toute ma carrière. Et en fait, je suis venu au logiciel libre par l'intermédiaire des nanocalculateurs de type Raspberry Pi.
Donc c'est des tout petits ordinateurs pour présenter.
Voilà,
pour
c'est des ordinateurs qui ont un format carte de crédit à peu près. Voilà. Et donc ça a daté, ça fait une dizaine d'années quoi. Et donc comme le système d'exploitation qui tourne sur ces nanocalculateurs est un dérivé de Debian, voilà, moi, je suis venu au logiciel libre par l'intermédiaire de mes projets en fait. Que j'ai développé.
D'accord. Alors Debian, c'est un système d'exploitation libre. On a déjà parlé dans l'émission, donc n'hésitez pas à aller sur libreavoue.org ou sur causecommune.fm et chercher Debian pour en savoir plus. Je précise que donc vous avez des petits messages personnels qui arrivent sur le salon web, donc je vais les relayer. Donc notamment, il y a quelqu'un qui nous dit, alors le pseudo c'est Hfoutri, donc je sais pas si c'est un prénom, un nom, qui dit en tout cas voilà, si Romain peut faire un petit coucou à la nouvelle association Les Ordis du Cœur, réemploi d'ordi avec logiciel libre à destination des plus démunis, accompagnement aux usages. Je crois qu'on a prévu d'en parler à un moment ou un autre dans l'émission.
Oui, on travaille, on a tissé des liens avec le milieu associatif du secteur et bon, c'est Henri Foutry en l'occurrence, le pseudo. Il vient de créer une association, il fait la même chose que ce qu'on fait au lycée, mais il le fait dans le cadre d'une association. Il récupère donc ses machines, on en parlera tout à l'heure,
bon,
j'imagine.
Voilà, on en parlera tout à l'heure. Hein.
Voilà, et lui, bon, lui, il est dans le milieu associatif, il n'est pas enseignant, mais il a une formidable association, un investissement un peu sans faille comme nous.
D'accord. Donc c'est assez proche que ce, pour les personnes qui écoutent régulièrement l'émission, ça doit être assez proche de ce que fait Antanac, qui sont nos voisins
c'est
et
ça.
Voisines,
voilà.
Au 18 rue Bernard Dimet, donc ils récupèrent des ordinateurs et les réinstallent, les remploient avec du logiciel libre et à disposition d'un public défavorisé.
Mais, c'est complètement ça.
Voilà, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, donc merci déjà pour cette présentation et encore une fois, les personnes qui sont sur le salon web, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, je pourrais les relayer. Alors, on va commencer par la première grande partie, entre guillemets, c'est les débuts des projets avec plusieurs questions, voilà, quand ça a commencé, pourquoi, comment, pour qui. Mais je vais commencer peut-être par lire l'objectif que j'ai lu sur le site, alors sur lequel vous référencez, vous documentez vos pratiques. Parce que non seulement vous avez des pratiques logicielles libres, mais en plus vous les documentez. Donc le site c'est mat-code.fr, mat avec un S. Et je lis « Aider et inclure tous les élèves par un numérique citoyen, durable et responsable ». Donc question, bah, quand ce projet a commencé, quel était l'objectif? Et qu'est-ce que vous mettez derrière cette phrase que je viens de lire, notamment « numérique citoyen, durable et responsable »
Alors, l'origine du projet, le jeudi 19 mars 2020, quand on nous a annoncé le confinement strict, du jour au lendemain, on a dû continuer notre progression pédagogique de manière distancielle avec tous nos élèves. Donc Romain et moi, depuis que je travaille en STI2D et que j'ai développé mes projets avec mes nanocalculateurs, j'en achète tous les ans. Et donc j'avais un tas d'ordinateurs à disposition. Et on a donc convoqué tous les élèves qu'on avait en responsabilité pour leur fournir au moins le matériel pour pouvoir travailler. Donc le jeudi et le vendredi, les deux derniers jours, là, juste avant qu'on ferme, tous nos élèves, on leur a donné une Raspberry, un clavier, une souris. Et à côté de ça, on avait le site matcode.fr sur lequel il y avait nos cours, et puis un chat, et puis... Donc ils avaient aussi bien la partie matérielle que la partie logicielle à disposition, et ça nous a effectivement donné un certain confort, entre guillemets, bien sûr, hein, de continuer cette progression pédagogique de manière distancielle avec des élèves qui, On s'est bien rendu compte rapidement que dans d'autres sections, les élèves n'avaient qu'un téléphone pour travailler. Et c'était compliqué de pouvoir travailler au moins correctement, quoi.
Parce que je suppose que comme dans beaucoup de familles, il y avait relativement peu d'ordinateurs ou un ordinateur par famille. Donc quand il y a plusieurs personnes dans une famille par définition, c'était compliqué. Et donc l'idée c'était aussi de ne pas laisser, donc si je comprends bien, enfin si je suppose, de laisser finalement la main à tous les services qui se sont développés à ce moment-là, les services privateurs hein, tels que Zoom et autres, et d'offrir une alternative respectueuse des données personnelles aux élèves, c'est ça?
C'est ça, oui, complètement, oui.
Donc ça vraiment, donc finalement ce projet est même très récent parce que finalement on est en 2024. Quand on va voir tout à l'heure l'état des lieux où vous en êtes aujourd'hui, c'est vraiment très court tout ce que vous avez fait. Et donc vous avez commencé comment en fait parce que vous êtes parti d'un existant déjà au lycée ou pas, où il y avait vraiment pas du tout d'existant logiciel libre au lycée?
Alors, on faisait un petit peu comme tout le monde, je veux dire, alors peut-être un petit peu plus, mais on a tous, quand on est enseignant, une idée sur le logiciel libre. Enfin, j'y reviendrai, c'est pas toujours connu, mais on trouve toujours des enseignants qui utilisent des logiciels libres, mais c'est chacun dans son coin, de façon isolée. Nous, on faisait un petit peu ça, on présentait ce qui existait, et c'est vrai que ces Raspberry qu'on a donné ou les ordinateurs reconditionnés, ça a été un levier formidable, parce que les élèves, ils pouvaient installer les logiciels, il n'y avait pas de contrainte de coût, il n'y avait pas de contrainte de licence. Ils nous envoyaient un petit message, « Monsieur, ce logiciel-là n'est pas installé. » Eh ben, installe-le, hein, tu ne vas pas avoir de difficulté. Hein, tu utilises le logiciel qu'on t'a montré, tu tapes le nom, hop, le logiciel, il est installé. On a vraiment trouvé que c'était un levier formidable à l'époque, mais on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas laisser les choses comme ça. On a un levier extraordinaire en éducation que sont ces logiciels libres. Et puis, en fait, chacun travaille de façon séparée, dans son coin. C'est pas connu. Et puis surtout, parfois, c'est même tourné en dérision. Hein. On a quand même des gens qui nous disent « ça marche pas ce que vous faites ». Donc on a eu deux objectifs quand on est parti là-dessus. C'est bien sûr aider, inclure les élèves. Hein. C'est en ça que c'est inclusif. Et puis après, acculturer l'ensemble de la communauté éducative à tout ça. Parce que l'idée, c'était de ne pas laisser ça isolé.
Et comment ont réagi vos collègues, par exemple, sur ce... Parce qu'à l'époque du Covid, tout le monde a un peu improvisé, en fait. Il faut être tout à fait clair, autant dans les familles que dans les profs, quoi. Et donc, par rapport à cette démarche que vous avez eue, comment ont réagi vos collègues, les profs?
À l'instant T du Covid, on a eu diverses réactions. On a eu une dizaine de collègues qui nous ont immédiatement suivis. Mais bon, on est un lycée de 150 professeurs. Hein. Et puis les autres, chacun est parti un petit peu avec sa solution. Hein. Il y a eu du Zoom, il y a eu du Discord, il y a même eu du Facebook. Donc à l'instant T, on peut dire qu'on a été suivis en partie. Mais c'était les gens qui étaient peut-être déjà acculturés à ça. Les autres ont eu peur, tout simplement. Hein. Ils dramatisaient vraiment les logiciels qu'ils ne connaissent pas.
D'accord. Et encore une fois, là, il n'est pas question du tout de critiquer ce qui a pu être fait à l'époque, parce que tout le monde a fait fonction des moyens disponibles. Vous avez parlé de salle informatique tout à l'heure. Est-ce que déjà à l'époque, dans la salle informatique, il y avait des ordinateurs qui étaient avec du logiciel libre, ou à l'époque, ça n'existait pas encore?
Non. On avait deux salles d'informatique entièrement sous Windows, et avec des ordinateurs qui deviennent de plus en plus lents hein, dans leur utilisation. Il y a plein d'utilisateurs, il y a plein de profils sur tous ces postes. Et franchement, c'est un peu compliqué.
Ce qu'on peut déplorer dans ce qui se passe, hein, on peut faire, hein, d'ailleurs ça nous a souvent été dit, on peut faire du logiciel libre sous OS propriétaire, même si moi j'ai toujours une petite phrase là-dessus, c'est qu'acculturer le logiciel libre sous OS propriétaire, c'est un peu comme faire une cure de désintox dans le camping-car de Breaking Bad. Hein. Je pense que l'OS propriétaire, il finit toujours par ramener les gens vers ses logiciels. Hein, en ce sens-là, c'est pas une bonne idée. Mais bon, on peut faire du logiciel libre, mais alors, nous, les masters qui arrivent au lycée, hein, c'est-à-dire, ce sont les images des systèmes Windows qui arrivent au lycée, ils sont pas actuellement, en tout cas pour notre région, ils n'étaient pas prêts à ce moment-là pour présenter convenablement les logiciels libres. C'était même parfois contre-productif parce que, à titre d'exemple, Firefox était livré avec, non configuré pour le proxy, hein, c'est-à-dire l'ordinateur qui filtre les échanges avec l'extérieur, donc il fonctionnait pas. Donc c'était même contre-productif parce que les gens disaient « Firefox, t'as vu, Firefox, il fonctionne pas, hein, je veux aller sur Internet, ça ne marche pas. » Donc c'était vraiment une situation qui était un petit peu catastrophique. Hein.
D'accord. Alors, une question, je ne sais pas comment ça marche exactement dans votre lycée, mais il y a souvent un accompagnement technique. Alors, soit c'est dans le cas d'un lycée, ça peut être la région ou un service institutionnel. Donc, au niveau technique, comment vous êtes aidé et par qui? Et comment ont réagi les services techniques? Est-ce qu'ils ont ces services ont été un peu frileux par rapport à l'utilisation de logiciels libres, notamment pour des questions peut-être de compatibilité avec des outils privateurs. Voilà, comment vous êtes aidé en termes techniques et comment ont réagi ces services à ce moment-là?
Ah ben nous, on a démarré par ce qu'on appelle du shadow IT. Hein.
C'est-à-dire c'est quoi ça?
Shadow IT, on a fait de l'informatique dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on a...
Sans prévenir, quoi.
Sans prévenir. Moi, j'ai formaté les Windows qu'il y avait dans la salle informatique et j'ai installé du Linux partout. Je sais qu'il y a des collègues qui le font dans leur établissement. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu un non formel. La toute première fois, on a eu un non formel. C'est-à-dire, vous ne faites pas ça.
Oui, c'était le sens de ma question, parce que j'imagine bien que la première réaction doit être, effectivement, continuer comme on faisait avant et surtout ne changer pas.
C'est ça. On ne change pas les pratiques qui fonctionnent.
Qui fonctionnent ou qui fonctionnent à moitié, mais en tout cas, ils ont l'impression qu'elles fonctionnent. Donc, la première des choses, on en parlera après, hein, mais c'est d'avoir le soutien de sa direction, déjà.
Ah, mais on peut en parler tout de suite, parce que finalement, on est au début du projet, donc au niveau du confinement. Donc, le service informatique... Alors, le service informatique, c'est quoi? C'est la région qui gère ça? C'est une...
Alors, il faut savoir que chaque établissement a un référent au niveau de la collectivité. Les écoles primaires, ce sont les mairies, les collèges et les lycées... Le collège, c'est le département, et les lycées, ce sont les régions. Et là, il y a un DSI qui chapeaute un petit peu...
Direction des systèmes d'information, DSI.
Voilà, c'est ça. Directeur des systèmes d'information qui chapeaute un peu la façon dont on doit utiliser les logiciels. Et c'est un vrai frein, parce qu'on a de moins en moins la main là-dessus.
C'est eux qui gèrent les infrastructures.
Oui, tout à fait. Enfin, ma femme est enseignante et effectivement, il y a des choses qu'elle peut, enfin, elle peut pas faire grand chose au niveau informatique parce que justement, c'est la DSI qui dirige, qui décide de tout, quoi. Donc, si je comprends bien, au démarrage du projet, la direction des systèmes d'informatique était plus que frileuse ou plutôt elle vous a dit non, et quelle était la réaction de la direction, enfin, au niveau de la personne qui est responsable du lycée? Quelle était la réaction aussi du rectorat? Je suppose que le rectorat
Pour être exact, on n'a pas eu un non formel de la DSI, parce que nous, on a d'abord parlé à notre chef d'établissement, qui à l'époque n'a pas souhaité donner suite. C'était d'abord le chef d'établissement. La DSI, ça a été beaucoup plus long, parce qu'on a envoyé des mails pendant longtemps, on a essayé de les contacter, ça a été très long de pouvoir les toucher, en fait.
D'accord. Et le chef d'établissement, comment il a réagi, alors?
Le chef d'établissement était très très frileux parce qu'il avait peur qu'il y ait un problème. Il connaissait pas. Le problème, il est là. Il ne connaissait pas. Il a dit, écoute, c'était même encore plus compliqué que ça parce qu'il a convoqué notre agent informatique et puis ils en ont conclu que c'était pas une bonne idée à deux, sans même nous en parler.
D'accord. Donc,
voilà. Et nous, on peut pas aller au-delà de la hiérarchie. Hein, et c'est là où c'est très compliqué. Ça sera l'un des premiers conseils qu'on va donner. C'est embarquer en expliquant bien et en mettant en avant les avantages de ce projet si vous voulez avancer, parce qu'il faut convaincre la direction de l'établissement en premier lieu.
Alors justement, pour que je sois sûr de comprendre, parce que je ne suis pas tout à fait sûr. Donc effectivement, la direction était frileuse, mais vous êtes quand même lancé. Oui. Donc est-ce que vous êtes lancé en prévenant la direction, en disant, bon, on va assumer les risques, c'est-à-dire s'il y a des problèmes, on va faire le support, ou est-ce qu'en fait vous êtes lancé, c'est-à-dire que vous avez fait ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'installation, sans vraiment prévenir personne, et en espérant que ça marche?
Pascal le faisait déjà un peu avec ses Raspberry. Hein. Donc il avait déjà des Raspberry qui étaient intégrés au réseau d'établissement. Donc on ne s'est pas trop posé de questions. Et puis voilà. Hein. De toute façon, le risque, c'est ce sont des montées et descentes d'images sur les machines. La machine ne fonctionne plus, on redescend l'image Windows. Ça se fait, pour dire les choses simplement, ça se fait par un appui sur F12. L'image est redescendue au bout de 5 minutes. Hein. Donc,
ce que vous appelez l'image, précise ce que tu appelles l'image pour les gens qui nous écoutent.
Alors, l'image, c'est le système d'exploitation qui est enregistré sur un serveur. Donc, c'est le système d'exploitation tel qu'on le réinstalle quand on appuie sur F12 ici dans notre lycée ou quand on fait une redescente sur les PC du lycée. Donc, c'est vraiment le système d'exploitation.
D'accord.
Tel qu'elle est stockée.
Ok, d'accord. Donc là, on a parlé de la réaction de la DSI. Alors, je fais juste signe en fait à Joseph qui va faire l'interview du sujet principal, qui peut s'installer et mettre son micro, enfin son casque s'il veut nous écouter. On a parlé de la réaction donc de la direction du système d'information. Mais comment ont réagi les élèves et les familles quand vous leur avez parlé de ce projet et quand vous avez commencé à les équiper en nano ordinateur?
Bah, l'équipement en nano ordinateur, ça a été la période de confinement.
Oui.
Et ensuite, en fait, suite à cette expérience, voilà, on a développé ce projet Nerd pour essayer d'étendre ceci à non seulement notre communauté éducative, mais plus généralement, maintenant, on est en train de ramifier vers d'autres établissements.
Alors, familles et les élèves étaient convaincus. On a eu un retour hyper positif de ce qui s'est passé là. Ça, je pense qu'il faut le dire. Ils ont été convaincus. Et ils se sont dit, bon, c'est ça Linux, c'est ça les logiciels libres. Mais franchement, pourquoi on nous a pas parlé avant? Pourquoi on a des logiciels qui sont comme ça et on n'est pas au courant? Ils nous ont dit qu'il y avait un problème, en fait, clairement.
D'accord. Juste avant de continuer, j'ai précisé, Pascal vient d'employer l'acronyme NERD, c'est N-I-R-D, c'est numérique, inclusif, responsable et durable. C'est un peu le nom de code de votre projet, c'est ça?
Voilà, c'est ça, avec un petit jeu de mots, tu l'as compris.
Oui, voilà, mais on va pas l'expliquer, mais effectivement, c'est pour ça que j'étais un peu surpris de la prononciation, mais je comprends la prononciation maintenant. Oui. Donc les élèves étaient ravis et... Tout à l'heure, tu parlais, je ne sais plus si c'était Romain ou Pascal, parlait d'acculturation. Oui. Donc, au-delà de l'usage, est-ce que dès le départ, vous avez commencé à les acculturer sur ce qu'était le logiciel libre, ce qu'était le partage de connaissances, etc. Ou vous en êtes resté, au début, uniquement à l'usage?
Moi, en ce qui me concerne, c'était plutôt le côté développement durable que j'ai initié à mes élèves. Utiliser des nanocalculateurs, c'est très peu énergivore. Financièrement, ce sont des ordinateurs à bas coût. Hein. Eben Upton, qui est à l'origine de ce projet Raspberry Pi, et qui est enseignant en informatique à Cambridge, il nous a donné un outil qui, aujourd'hui, nous permet de développer des projets avec des calculateurs relativement puissants sous logiciel libre et donc sous aucune contrainte de logiciel ou de matériel.
C'est surtout, je crois, il ne faut pas opposer, hein, on parle d'acculturation et d'usage, mais en fait l'acculturation, elle ne peut venir que de l'usage et on a fait de l'usage et l'acculturation elle est passée par là, parce que il ne faut pas être dogmatique, ça c'est un vrai problème. On rencontre parfois dans le logiciel libre des gens qui font des injonctions, c'est bien, utilise ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, non, ça fonctionne pas, surtout avec des élèves. Hein. Il faut mettre les avantages en avant et puis faire essayer, y compris avec nos collègues, parce que ça n'allait pas non plus sans nos collègues. On ne peut pas, on peut pas acculturer les élèves au logiciel libre si on n'embarque pas nos collègues profs avec nous. Hein. En ce sens-là, d'ailleurs, on a réalisé plusieurs formations. Les collègues étaient ravis quand ils comprennent ce que c'est et qu'ils voient surtout que ça fonctionne très bien. Mais ils sont ravis et c'est eux qui nous aident maintenant et qui en parlent. Donc, l'acculturation, elle est vraiment venue par l'usage. Hein.
Donc, je rebondis sur ce que tu viens juste de dire avant sur la formation de tes collègues. Donc, dès le départ, en fait, votre stratégie a été d'expliquer à vos collègues ce qu'est le logiciel libre, les usages, et de leur faire des formations pratiques, c'est-à-dire à des outils vraiment dédiés par rapport à leurs besoins en tant que prof vis-à-vis des élèves, c'est ça?
Ouais, complètement. J'ai une collègue qui a eu cette phrase magnifique. Elle m'a dit, après avoir utilisé, alors elle est venue dans cette salle, on est là avec Pascal, on est dans la salle qui est complètement, on a 20 postes sous Linux, 100% logiciel libre. Ils sont venus ici, elle nous a dit, à quelle heure on démarre la formation? Alors au bout de 2 heures. Hein. Parce que là, c'est pas très compliqué ce qu'on fait. Quand est-ce qu'on va apprendre plus de choses? Je dis, non, ça y est, tu utilises. Et elle m'a dit, en fait, la formation à donner, c'est surtout dédramatiser. Parce que moi, je pense qu'en 2024, il ne faut pas plus de compétences pour utiliser Linux que Windows. Et ça, les collègues s'en sont bien aperçus.
D'accord. On sait quand même que les profs sont quand même des personnes très occupées. Ces formations, c'était quoi? C'était sur le temps de travail? C'était sur un hors temps de travail?
Alors, nous, au lycée, il y a quelques journées qui sont off, on va dire, au mois de juin. Entre 2 jurys et 2 épreuves de bac, on a quelques journées un peu off où, d'habitude, on avait des réunions pédagogiques. On a profité de ces journées pour faire des réunions logiciels libres.
Formation.
D'accord.
Et on a réussi à en faire inclure des réunions officielles par la suite. Hein. Maintenant, on a été quand même intégré à la formation officielle.
OK. Donc maintenant, entre guillemets, la direction, rectorat, tout ça, vous soutient?
Voilà, vous êtes connu. La DRAN nous soutient, oui.
D'accord.
Oui, okay. On a eu un gros travail là-dessus, hein. Franchement, au niveau de la visibilité, parce que j'ai coutume de dire dans ce projet, si on ne bouge pas, on est mort. Parce que comme on est un peu alternatif, si on ne fait pas de bruit, on a tendance un petit peu à nous écarter. Ce n'est pas toujours volontaire, il n'y a pas d'acte de malveillance, mais c'est comme ça.
D'accord.
Voilà, donc nous, on a fait beaucoup de bruit, on est connu à tous les niveaux. Hein. On a rencontré notre communauté de communes, on a rencontré les parents d'élèves, on a rencontré l'inspection. On a rencontré la DRAN, hein. La DRAN c'est la direction du numérique éducatif au niveau régional. Et puis assez rapidement on a pris contact avec le ministère. On a eu un bon petit coup de main de Bastien Guéry, qui nous a aidés au lancement, et puis il nous a orientés vers Alexis Kaufmann, qui soutient le projet à la DNE, puisqu'il est arrivé chargé de mission à la DNE.
Alors, Bastien Guéry donc, est à la direction du numérique, c'est la mission logiciel libre donc, de la DINUM, Direction interministérielle du numérique, voilà, et Alexis Kaufmann, alors son poste officiel à la Direction nationale de l'éducation, du numérique éducatif, je ne sais plus exactement c'est.
Alors, il est chargé de mission logiciel libre et mixité.
Voilà, exactement. Voilà, Alexis Kaufmann, donc deux personnes qui vous ont aidé. Le démarrage, donc, c'est le confinement. Quelles ont été ensuite les étapes que vous avez mis en place pour, comme tu le dis, en fait, faire du bruit, puis avancer aussi, montrer que... Quelles sont les étapes ensuite, les grosses étapes du projet?
Les deux premières années, on a envoyé au bas mot 400 mails.
À qui?
On a vraiment tapé partout dans les collectivités, et d'ailleurs il y en a un qui a très bien, alors dont Bastien Guéry, moi je le connaissais pas, Bastien, je l'avais peut-être entendu dans Libre à vous, Bastien, mais
oui, il est intervenu deux fois déjà.
Et oui, et merci Libre à vous. Et on a matché avec un député de Vendée, en l'occurrence le député Philippe Latombe, qui nous a répondu. Oui. Je m'y attendais pas. Sa collaboratrice Catherine, que je remercierai jamais assez, nous a recontacté. Et Monsieur Latombe, on l'a rencontré à Lille. On est allé avec notre chef qui nous soutenait. Alors notre proviseur suivant, il nous a soutenus à 200%. C'est là où l'affaire a été lancée. Là, ça a été parti. Et notre proviseur actuel à 300%. Donc là, on est vraiment sur le tremplin. Mais pour terminer, que Philippe Latombe, il nous a vraiment ouvert des portes parce qu'il nous a donné un peu son réseautage et son carnet d'adresses. Il nous a présenté Monsieur Frédéric Motte, qui est un élu régional ici. Là, c'est vrai que ça tourne un peu politique, mais ça a été indispensable dans notre démarche.
D'accord. C'est des démarches de faire connaître le projet pour éventuellement.
Au niveau politique.
Pardon.
Voilà. Y compris au niveau politique.
Oui. Et alors, c'est pour un soutien politique, mais je suppose aussi que c'est pour essaimer et inspirer d'autres structures dans d'autres régions.
Ah, complètement. Ouais. Notre but, c'est vraiment de faire de notre établissement un exemple innovant. On a écrit.
D'accord. Ok. Alors, on va faire une pause musicale. Je vous avais dit, le temps passe très vite, et on reviendra sur le sujet de l'évolution pratique de ce que vous avez fait dans le projet juste après. Donc, on va faire une pause musicale de 3 minutes. Nous allons écouter Extrêmement PD de toi par Rose Azerty. On se retrouve donc dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. Je suis extrêmement pété de toi. T'as les boulets à 100 à l'heure et puis t'as drifté devant moi. Je suis extrêmement pété de toi. Peux-tu sortir de ta bagnole, il faut que j'établisse ce constat. Tu dis tes termes et je réponds oui oui. Yeah.
Nous sommes de retour au studio. Nous venons d'écouter Extrêmement PD de toi par Rose Azerty, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0. Et Rose Azerty sera tout à l'heure dans le studio pour une courte interview.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors, nous allons continuer notre discussion donc, concernant le retour d'expérience logiciel libre au lycée Carnot de Bruel-Labuissière dans le Pas-de-Calais avec nos deux invités profs au lycée, donc Romain Debailleul et Pascal Bell. N'hésitez pas, si vous nous écoutez, vous voulez intervenir pour une question ou une remarque, à nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission, donc soit sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, soit sur le site libreavoue.org. Alors, juste avant la pause, on parlait de, donc, du soutien politique et des nombreux courriers envoyé par Romain et Pascal pour obtenir un soutien, notamment l'évolution de ce projet, donc qui avait commencé au niveau du confinement, donc le 19 mars 2020. Et on parlait également donc du fait que vous soyez dans une salle équipée en 100% logiciel libre. Alors j'ai envie de vous demander, bah, à partir de quand a commencé l'installation de cette salle équipée en 100% logiciel libre? Comment ça s'est fait? Où vous en êtes aujourd'hui? Pour quels usages? Beaucoup de questions.
Oui. On va peut-être repréciser un petit peu le contexte dans lequel on fonctionne.
Oui.
Au niveau ici, au lycée, on a un serveur qui, en fait, c'est un serveur Quartz. Donc, c'est un serveur qui est géré par la société Iris Technology. Et on a pu donc intégrer sur ce serveur, nous, nos postes Linux qui sont complètement intégrés au réseau pédagogique. C'est-à-dire qu'un élève qui se connecte sur un poste Windows ou sur notre poste Linux, pour lui, c'est exactement la même démarche. Et il retrouve son environnement de travail qu'il a habituellement. La région envisage en fait, de changer les serveurs des lycées. Et pour passer en fait, sur des serveurs qui sont, entre guillemets, full Windows. Ce qui va poser quelques problèmes pour intégrer nos machines sur ce serveur. Alors, le DSI de la région y travaille. Hein, on attend effectivement une solution pérenne pour pouvoir intégrer ces machines comme elles le sont actuellement avec le serveur Quartz. Mais on n'aura pas de solution pour nos nanocalculateurs. Ça, on nous l'a tout de suite dit, pas de solution pour intégrer ces nanocalculateurs dans cette structure. Donc là, bon, on cherche des solutions autres, passer par des box à côté, mais bon, ça sous-entend d'autres problèmes dans le filtrage des élèves sur le réseau, etc.
D'accord.
Ce qu'il faut...
Ouais, vas-y, Pascal. Romain.
Ce qu'il faut comprendre dans ce que dit Pascal, c'est qu'on est limité par la technique. En l'occurrence, ce serveur, il autorise ou pas la connexion des clients, c'est-à-dire les PC, Linux ou Windows, et là, on est en train de nous couper l'herbe sous le pied si on n'a pas de solution. Maintenant, on ne peut pas imaginer des postes Linux qui ne soient pas dans les mêmes conditions que les autres, parce que ça serait donné. On veut toujours que les postes Linux logiciels libres, on ait au moins le même niveau de qualité et d'usage que les autres postes, parce que sinon... On va retomber dans cette idée de dire que les logiciels libres, c'est moins bien. Il faut vraiment qu'on donne le même niveau de service. C'est ça le sens de la remarque. Et on doit continuer à fournir ce même niveau de service. Au niveau des usages, j'allais dire, quand on a démarré, on nous disait que ce n'était pas viable de faire ce qu'on fait maintenant depuis 4 ans. Moi, ce que je peux en dire, c'est qu'on a sous-titré le projet « La preuve par l'usage ». On l'a faite, la preuve par l'usage. Maintenant, si on vous dit qu'on ne peut pas travailler entièrement sous logiciel libre en EPLE, en établissement scolaire du second degré, c'est pas vrai. Vous vous référez à notre documentation et nous, on a prouvé que ça marchait bien. On a fait passer les épreuves de bac. Tu me demandais l'usage. Mmh. On a fait passer les épreuves de bac l'année dernière sur nos clients Linux. Les collègues viennent, ils utilisent les postes. Les élèves, en fait, au départ, on le disait les premières années, mais on le dit même plus aux élèves. Ils arrivent dans la salle Linux, même les secondes qui débarquent dans le lycée. Nos collègues s'inscrivent et c'est là où on sait une grande victoire parce que maintenant on n'en parle même plus. C'est intégré dans le fonctionnement du lycée. Au début on dit ah tiens il y a la salle Linux, j'ai peut-être y aller. Non, maintenant les collègues viennent, ils y viennent avec plaisir parce qu'en plus on leur offre des petites choses en plus. On a des ballons ergonomiques, des choses comme ça. On essaye de faire que la salle soit plus intéressante.
Alors quand tu parles d'épreuve du bac, c'est quelle épreuve du bac précisément?
On a fait passer, nos élèves de NSI, ils doivent passer une épreuve de programmation.
Donc en Python aussi, si je me souviens bien.
C'est du Python, c'est ça. Donc ils ont passé cette épreuve de programmation. Alors il y a besoin de Python, il y a besoin d'un lecteur PDF, des choses assez simples. Hein, mais on ne demande pas des choses extraordinaires en fait au niveau de l'éducation nationale pour passer les examens. Hein. Les machines, il n'y a pas besoin de choses vraiment importantes. Hein. Donc vraiment, on a une grande victoire sur l'usage. Là, on peut dire qu'on a fait la preuve est faite et terminée. Hein. Vraiment, on est très content là-dessus. Hein. Je pense que ce point du projet est terminé. Et on aimerait bien que ça serve de référence. Nous, par exemple, on s'est beaucoup servi de référence comme Nicolas Vivant et Chirol ou François Elie, hein, qui a bien travaillé à Angoulême aussi au niveau du logiciel libre. Ben, on voudrait que notre documentation elle serve au même titre que ces deux personnes-là.
D'accord. Alors pour donner un peu une idée un peu concrète, qu'est-ce que vous avez installé sur ces ordinateurs en fait ? Alors vous avez installé une distribution GNU Linux particulière. Quel logiciel vous avez installé ?
Ouais, on a mis une Mite hein, parce que d'une part elle trouve toujours tous les pilotes tout de suite. C'est dérivé d'Ubuntu. Hein. Elle a quand même un menu en bas à gauche. C'est quand même pas trop loin de la présentation classique de Windows. Donc pour pas trop dépayser les gens non plus, hein, c'est important. Et puis après on a installé, on a plusieurs dizaines de logiciels dessus. Hein. Je peux t'en donner quelques-uns. Alors évidemment, nous, on préconise Firefox. Hein, les post-élèves, il n'y a plus que Firefox dessus. Hein. Même si je tiens à préciser qu'on présente toujours les deux types de solutions. Hein. On présente des logiciels propriétaires et libres. On n'est pas dogmatique là-dessus. Il ne faut surtout pas l'être, je pense. Hein.
Bah, si bien, on ne peut pas complètement intégrer la totalité des PC. On ne pourrait pas. Il y a certains logiciels propriétaires qu'on utilise dans des sections techniciens supérieurs qui sont spécifiques et qui n'ont pas d'équivalent en Linux.
D'accord. Donc, est-ce que vous utilisez les logiciels, je dirais, libres que les gens connaissent le plus, c'est-à-dire donc du Firefox, du LibreOffice pour la bureautique.
Oui, tout ça.
Ouais, notre interpréteur. Alors Python, c'est libre. Notre interpréteur Python est libre.
Vous utilisez des outils pour faire de la retouche d'image,
on a OpenShop, on a KDN Live parce qu'on est amené à faire des vidéos. On utilise GeoGebra, c'est un logiciel de mathématiques. Filius pour faire du réseau. Anki pour gérer des cartes mémoire. On a Audacity, on a Xurnal pour les PDF. Enfin, on a SpeechNote qui est extraordinaire comme logiciel de translation vocale. On a GIMP. Enfin, j'ai pas tous les cités parce qu'on a vraiment c'est blindé en fait. Hein.
Ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, c'est la seule machine dont vous êtes actuellement, c'est combien d'ordinateurs en fait ?
On a une vingtaine de PC qui sont 100% logiciels libres.
D'accord, ok.
Et Pascal a une salle hybride Windows-Linux de son côté.
Voilà, parce qu'il expliquait effectivement pour les besoins en techno, il y a des logiciels très spécifiques qui ne fonctionnent que sur Windows ou Mac, je suppose.
Oui, enfin moi j'utilise une seule application pour faire un peu d'algorithmique qui est propriétaire, qui s'appelle Flowcode, mais... Non, sinon, moi j'ai deux postes, un poste Windows classique avec un poste fixe, et j'ai aussi une Pi 400. Et la Pi 400, c'est une des dernières cartes Raspberry qui est sortie. En fait, c'est un clavier ordinateur.
D'accord.
C'est la forme d'un clavier, mais toute la carte mère est dedans, en fait.
Il y en a sur tous les postes. En fait, tu as du Linux sur tous tes postes.
Ok, d'accord. Voilà. Ah. Là, on parle de logiciels. Est-ce que vous avez essayé de sensibiliser les élèves aussi à d'autres types de ressources libres, par exemple l'usage de Wikipédia, OpenStreetMap, ou pas du tout ?
Si, complètement. Nous, on essaie de faire que ça. Et d'ailleurs, tout notre site, y compris les cours, parce que sur MathCode, il n'y a pas que la documentation du projet Nerd, il y a aussi tous nos cours qu'on a déposés en ressources éducatives libres. Mais on a une vraie chance avec la NSI, hein, cette nouvelle matière, où on met quand même en avant le côté ressources éducatives libres et logiciels libres. Il faut le savoir, c'est au programme de première d'utiliser un système d'exploitation libre. Ça aussi était un levier pédagogique, celui-là, pour intégrer du logiciel libre au lycée. Là, c'est vraiment au programme, hein. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Utiliser un système d'exploitation libre.
Oui. Ce qui n'empêche qu'il y a pas mal d'élèves qui passent leur test Python sur un environnement totalement privateur.
Et oui, à cause des problèmes de serveur qu'on a évoqués, voilà. On ne peut pas jeter la pierre aux collègues. Hein.
Oui, non, mais bien sûr, non, là, je parlais en l'occurrence de certains élèves qui m'en ont parlé. Alors d'ailleurs, est-ce que vous avez une explication sur ce changement de volonté au niveau de la région par rapport à ce serveur ? Alors je précise que Quartz, c'est avec un K, si je me souviens bien.
C'est
KWARTZ. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi la région, service de la région, veut le changer ?
On n'a pas vraiment d'explication. Le DSI, il est venu. Hein, on l'a fait venir avec notre chef. On l'a reçu avec des gens de la région qui ont été très aimables. Hein, mais ils nous ont dit, nous, on est pour l'utilisation des logiciels libres. Hein. La région Hauts-de-France est à 100% pour l'utilisation des logiciels libres. Bon, on veut juste maintenant que ce soit suivi d'actes. et qu'on puisse conserver nos clients, mais on n'a pas d'explication claire. Quoi, c'était trop lent, on nous a dit que c'était lent, que ça faisait plus l'affaire. Bon, on n'a pas d'explication claire. Je veux quand même rajouter qu'il y a le ministère qui développe un serveur pédagogique qui s'appelle EOL, qui est complètement libre et qu'on pourrait utiliser gratuitement. C'est maintenu, c'est sécurisé, c'est pérenne dans le temps. Pourquoi ne pas utiliser EOL dans toutes les régions, hein? Moi, j'ai un peu un pavé dans la mare, mais... On a une solution. Oui, mais voilà, on a quelque chose qui est gratuit, qui marche bien, qui est maintenu. Pourquoi pas utiliser ? Et en plus, ça autorise les clients Linux et Windows en un clic avec un script shell. Parce que là aussi, hein, on a quand même dû se battre avec Quartz. Hein, c'est nous qui avons programmé le script shell pour intégrer les clients Linux. Hein, on s'est amusé. Hein. On a fait un peu de technique. C'était pas. Je dis toujours de façon anecdotique, on a aussi des élèves. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On passe beaucoup de temps à faire des mails, des choses comme oui. ça, mais on doit bien s'occuper de nos élèves aussi.
Oui, parce qu'à un moment, votre métier, c'est d'être effectivement devant les élèves.
Voilà. Donc on aimerait un peu plus d'aide à ce niveau-là. Ouais, donc c'est peut-être... pas notre rôle de gérer le système d'information.
Ouais. Tout à fait. Donc un manque
ce
de
qui reste.
Oui, vas-y, Pascal.
Incompréhensible, en fait, c'est que EOL, donc c'est une solution qui est maintenue par le ministère, mais les régions restent décisionnaires. Et c'est eux qui s'occupent de l'infrastructure et donc qui choisissent. Les serveurs qui veulent mettre dans les établissements.
Okay. Les régions ont fait le choix d'EOL. Hein. Occitanie, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, ils sont sous EOL, par exemple.
Je retiens de ce pavé dans la mare que la région Hauts-de-France, présidée par Xavier Bertrand, fait un choix différent. Ce sont mes propos, hein. je les assume parfaitement. Ça me fait penser. Là, on parle de la région, mais il y a aussi, suite au Covid, il y a le ministère de l'Éducation nationale qui a commencé à développer, en tout cas, utiliser des logiciels libres pour proposer une offre de services qui s'appelle apps.education.fr.
Bien sûr.
En fait, il y a plein de profs qui n'ont jamais entendu parler de ça, je peux vous le dire. Donc, je suppose que vous utilisez certains de ces services dans le cadre de votre usage.
On a fait une formation pour nos collègues là-dessus. Je veux juste peut-être revenir. Je reviens juste sur notre président de région, Monsieur Bertrand. On le remercie parce que Monsieur Motte et Monsieur Bertrand, ils nous ont soutenus à 200%. Monsieur Bertrand, il nous a fait un courrier signé de sa main où il autorise l'expérimentation. Je veux quand même que ce soit clair parce que mais vraiment, lui, il peut pas. Le président de région, il a pas la main sur tout. Et le DSI et les gens responsables, ils ont été à notre écoute aussi. Maintenant, on attend juste la suite. Faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà.
D'accord.
Alors pour revenir à Apps. Oui, on utilise Apps. D'ailleurs, tu le retrouveras sur Matcode. On a détaillé, c'est extraordinaire, apps.education. Il n'y a plus de raison d'utiliser des services de GAFAM quand on est prof. Je vois encore des adresses Gmail, des Zoom qui passent, des Teams. C'est aberrant. On a une ressource extraordinaire au niveau de apps.education. Vraiment, ça marche très bien.
Bah, le problème, comme je le disais, c'est que 80, peut-être 15% des profs ne le connaissent pas. Je précise que je connais pas mal de profs dans mon entourage. Et franchement, la communication, alors c'est pas vous qui êtes responsable, hein, mais la communication auprès des enseignants de l'existence de apps.education.fr est très, 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 très faible. Hein, donc c'est effectivement bien dommage. Alors, le temps passe super vite. Tout à l'heure, j'aimerais aussi qu'on parle, avant de parler un petit peu de ce que vous avez appris, des conseils que vous pourriez donner ou des suggestions. En introduction tout à l'heure de l'émission, il y a une personne qui a parlé des ordis du cœur, donc du reconditionnement. Dans le cadre de votre projet, j'ai vu qu'il y avait donc un sort de cercle vertueux des élèves vers les élèves, etc., qui est donc le reconditionnement de machines récupérées. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer ce fonctionnement ?
C'est une des ramifications du projet Nerd. Hein, puisqu'on a récupéré des ordinateurs qui étaient destinés à la benne, en gros. Hein. Au début, par l'intermédiaire un peu du bouche-à-bouche avec les parents d'élèves, mais on va ici passer, je pense, à la vitesse supérieure et activer le RSE avec des entreprises pour récupérer des flux d'ordinateurs, que ce soit des portables ou des fixes. Et donc ce club informatique qui était installé dans un premier temps ici au fond de notre salle et qui a permis bien sûr d'acculturer un petit peu nos élèves à cette pratique de reconditionnement. Hein, les machines qu'on reçoit, elles sont démontées, nettoyées, elles sont remises un petit peu à jour. Souvent on remet un peu de mémoire, on change le disque dur pour mettre un disque dur électronique, un SSD. Et pour retrouver une machine sur laquelle on peut installer une distribution Linux adaptée à la performance de l'ordinateur.
Mais qui
et
fait
on
ça
retrouve un ordinateur complètement fonctionnel, alors qu'il était destiné à la benne.
Mais les élèves, c'est vraiment les élèves. Il y a un volet pédagogique aussi à ce club, même si vraiment il y a un côté solidaire, puisque les PC portables repartent chez nos familles en difficulté, qui ne peuvent pas s'équiper. Hein, on a un élève en NSI, par exemple, qui nous a dit « Moi, j'ai pris la spécialité informatique, mais je ne pourrais pas m'acheter l'ordinateur, c'est hors de question. Hein. Même 150 ou 200 euros, ça ne sera pas possible. » On équipe les familles en difficulté avec les PC portables et on équipe les écoles primaires qui ne peuvent pas s'équiper. Et là, c'est vrai qu'on a une déferlante de demandes avec les PC fixes. Là, on utilise PrimeTux, hein, qui est une distribution Linux adaptée, créée par un professeur des écoles, Stéphane Dodon. Et d'ailleurs, la PrimeTux, elle est aussi soutenue par Alexis Kaufmann à la DNE.
Oui, et qui est développé, je crois qu'ils sont dans l'Oise, les gens qui développent PrimeTux, oui. Si je me souviens bien. Et on en a parlé effectivement dans l'émission, c'est une distribution. Finalement, ce qui se fait au lycée a un effet aussi positif vers le collège et les écoles primaires, en termes notamment de dotation de matériel informatique.
Ah oui, complètement. Oui. Et on a le double effet des logiciels libres. Non seulement on a des logiciels qui émancipent, hein, on va culturer nos élèves à l'alternative. Ils vont pouvoir installer sans contrainte de coût et de licence des logiciels chez eux, mais en plus Linux est plus léger que Windows, donc rien que le fait d'installer un Linux, ça fait repartir des machines qui étaient vraiment vouées à la benne. En plus on met un peu de RAM, on met un SSD, tout d'occasion, hein, ce sont des donations qu'on a eues, enfin c'est pas nous, hein, je tiens vraiment à préciser, ce sont les élèves, hein. Et c'est ça qui est important. Voilà, donc on a ce double effet qui fait que les machines elles repartent 5, 6, 7, 10 ans, hein, en école primaire ou dans les familles. Et c'est un projet que c'est cette partie du projet, elle est plus facile à expliquer au grand public. Hein. À culturer le logiciel libre, déjà, quand on démarre comme ça sur le grand public, c'est compliqué. Là, écoutez, on équipe les familles en difficulté, les écoles primaires, avec des logiciels qui émancipent et qui vont permettre de faire progresser les gens en informatique. Bah, ça se vend tout seul. Hein. Là, c'est là-dessus où on a pris un peu de vitesse. Hein. Cette partie du projet à grandir rapidement parce que c'est consensuel et que ça se vend bien.
Oui,
y compris au niveau des collectivités, d'ailleurs.
Ben, ça leur évite aussi de faire la dotation en informatique. En fait, en tout cas,
oui, alors on n'a pas de capacité industrielle. On s'est pris un petit tac il n'y a pas longtemps. Hein. Je me suis pris un petit tac sur Mastodon parce qu'on me disait vous remplissez des missions de service public avec des élèves. Alors, on ne remplit pas une mission de service public, on met les choses en avant. Et on n'a pas. Cette année, on a sorti entre 20 et 25 PC portables pour notre lycée. Donc tu vois, 1600 élèves, 25 portables, c'est très bien, mais ce n'est pas non plus extraordinaire au niveau du nombre. Mmh. Et on a équipé. Alors on a quand même équipé. On est sur 4 écoles primaires quand même.
D'accord.
Okay. Et puis c'est quand même très enrichissant. Un élève qui a reconditionné une machine et qui la donne à un de ses camarades qui n'en a pas. Ben voilà, pour lui c'est une expérience.
Ah, les moments de remise des PC, c'est toujours un grand moment. Hein. Ouais. D'ailleurs, on a mis les photos. Hein, on prend les photos de remise juste les mains sur le site. Si vous voulez les voir sur Matcode.
Oui, j'ai vu ça. Ouais.
C'est toujours. On se dit qu'on n'a pas tout raté. Hein. Et c'est vraiment c'est impossible de réaliser ce projet sans les logiciels libres. Là vraiment.
Ça, c'est clair.
Si on n'a pas ça, ben on est mort. Hein. On n'aurait même pas commencé. Aller trouver des licences Windows, puis de toute façon, les Windows qui font tourner ces machines-là ne sont plus mises à jour.
Exactement. Ok, d'accord. On va passer à la dernière partie de l'émission sur un petit peu ce que vous avez appris, puis aussi peut-être les suggestions que vous pourriez avoir à faire à des collègues. Donc déjà, quelles leçons vous tirez de cette démarche actuellement, donc qui a commencé en 2020?
On n'en tire que du positif et on n'y voit que des avantages. Vraiment, il y a ce côté solidaire, éthique, qui est fait qu'avec les élèves.
Et durable.
Ouais, il y a le côté aussi du développement durable. Donc vraiment, on n'y voit que des avantages. Je vois vraiment pas où on peut trouver une faille dans ce projet. Hein. Donc on coche toutes les cases. C'est simple, on coche toutes les cases avec ça. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que les autres établissements s'y mettent. Hein. On a fait des formations auprès des établissements du bassin pour que tout le monde s'y mette. Donc c'est vraiment le premier point, c'est qu'on a trouvé que des points positifs, hein, je peux pas te le dire autrement.
D'accord. Alors qu'est-ce qui a été le plus... quand vous allez voir des collègues, tout à l'heure tu parlais de la formation des profs, le soutien de la direction, tu disais que c'était le principal, enfin le point de démarrage.
Donc,
oui, quel conseil vous donnez en fait à vos collègues profs ou à d'autres personnes qui voudraient initier le même mouvement, que ce soit dans votre région ou ailleurs, hein?
Bah, qu'ils voient leur direction, hein, qu'ils en parlent. Voilà.
Et pas hésiter à nous présenter, j'allais dire comme carte de visite, mais montrer que ça fonctionne.
Pas seuls.
Ouais. Voilà. Alors, ne pas démarrer seul, voir sa direction en présentant les avantages, ne pas être dogmatique. On a quand même parfois des militants logiciels libres qui sont « c'est bien, il faut faire ça et c'est pas autrement ». Nous-mêmes, on s'est fait tacler par certains militants. Hein. Par exemple sur Matcode, j'avais pas remarqué, j'ai une API Google pour mes fontes,
ouais.
Mais je l'ai pas vu. je me suis pris des missiles, mais on peut pas être comme ça si on veut que ça fonctionne. Donc, non, mais voilà. Non, mais
je vais dire pourquoi je rigole, c'est parce qu'en fait, je suis client d'un fournisseur d'électricité qui s'appelle Enercop, et sur leur site gestion de clientèle, ils avaient aussi exactement la même chose, sauf que moi, je suis un gentil geek, je leur ai signalé le problème en leur expliquant pourquoi c'était un problème, et en leur fournissant aussi la solution, deux solutions techniques différentes. Donc effectivement, on peut pas être à 100% parfait.
Ne pas viser le 100% parfait, ça c'est un très bon conseil que tu donnes. Y aller modestement.
Oui, tout à fait. Voilà, et aujourd'hui, par rapport à ce que vous dites aujourd'hui, les distributions logicielles libres sont parfaitement utilisables par le grand public. Il y a 15-20 ans, c'était pas le cas. Donc effectivement,
oui, il y a aussi des gens. Ah oui, alors ça, tu as raison de souligner, parce qu'il y a des gens qui sont encore sur les images il y a 20 ans, y compris des collègues du technique chez nous. Hein. J'ai un collègue qui m'a dit la ligne de commande, ça va bien 5 minutes. J'ai dit mets ta base de données un jour, s'il te plaît.
C'est clair que.
Vas-y, Pascal.
C'est pas les élèves. Hein. Les élèves, on les acculture très très facilement.
Ouais, c'est très facile. Ouais. Non, mais ça, c'est un point en conclusion. Les élèves, ils nous ont bluffés. Ouais. Ils s'emparent du système. Alors, ils sont surpris, mais une fois qu'on a dédramatisé, ils s'emparent du système avec une facilité.
Mais c'est vrai que l'image de la ligne de commande, c'est l'écran noir, soit en vert, soit blanc, reste encore beaucoup dans l'imaginaire des gens. C'est assez marrant, je sais pas pourquoi en fait. Les gens pensent encore qu'aujourd'hui, effectivement, pour utiliser un système d'exploitation libre, il faut forcément utiliser une ligne de commande, qu'il n'y a pas d'interface graphique, etc. Alors qu'en fait, depuis longtemps, ça existe. Hein, donc,
Exactement. Oui. Là, on n'a pas de réponse non plus.
Ouais. Et est-ce que vous êtes régulièrement, je suppose que vous êtes régulièrement contacté pour des conseils, pour des interventions
Alors, honnêtement, on est sur les rotules.
Bah oui, c'est le sens de ma question en fait.
ça commence à être. Alors, notre chef a été sympa, elle nous a mis une référente innovation pédagogique qui s'occupe d'une part de l'administratif maintenant parce qu'on ne peut plus se permettre de répondre à tous les mails, etc. Et surtout depuis les JDLE, tu sais, on a participé aux
Alors,
journées
JDLE,
du libre éducatif.
Voilà.
Ce sont les journées du libre éducatif. C'est initié par la DNE, c'est Alexis Kaufmann. Encore Alexis, remercie Alexis.
Alors, j'ai quand même précisé, parce que j'aime beaucoup Alexis Kaufmann, mais c'est quand même pas le seul. C'est, il initie beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autres, il y a d'autres personnes
Bien
dans
sûr.
La direction de la direction du numérique éducatif.
Bien sûr.
Et donc, c'était des journées qu'on lui a Créteil. Et je crois que, je les ai suivies en ligne. Il y avait vraiment des présentations magnifiques, donc, dont certaines faites par des élèves. Et je crois que les vidéos seront en ligne à un moment ou à un autre.
Voilà. Alors, les élèves, c'était il y en avait des nôtres, des élèves justement, qui ont présenté le projet.
Ouais.
Mais non, il n'y a pas qu'Alexis, pardon à tous les autres, mais je suis obligé, je résume les choses.
Hein. Oui, bien sûr. Et donc, à ces journées, donc, vous avez eu des échanges avec des collègues, c'est ça?
Oui, voilà. Oui, on a déjà participé aux deux premières journées. Hein.
D'accord. Et donc, vous leur avez expliqué que vous êtes sur les rotules et qu'il faut que d'autres personnes prennent la suite, c'est ça?
La première année, c'était à Lyon. Et on a présenté le projet une heure dans la salle de presse. Et à la fin de la présentation, je ne sais plus comment il s'appelait.
On avait Cyril Colléat qui est venu nous voir. C'était le conseiller numérique de M. Blanquer à l'époque qui était venu nous voir. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on s'est fait connaître. Et là, on a Thierry Noisette, que j'aime beaucoup comme journaliste, qui nous a fait un article dans ZDNet. Mmh. Ah oui, c'est bien. On commence à être connus. Mais nous on veut être connus pourquoi? Pour que le projet il soit un exemple inspirant pour les autres.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous voulez...
On veut des ramifications.
Voilà, c'est-à-dire que, parce que de toute façon, sinon, quand vous êtes déjà sur les rotules, sinon vous allez vous griller, et c'est quand même important de prendre soin de soi, sachant que déjà le métier d'enseignant est déjà l'un des métiers quand même les plus compliqués.
Oui, on l'a pas négligé.
Voilà, exactement. Oui, non, bien sûr, voilà, donc...
C'est notre premier métier, donc...
Exactement, donc vous, ce que vous souhaitez, c'est à la fois, si j'ai bien compris, pérenniser le projet en interne, mais aussi qu'il essaime ailleurs, et que les gens, finalement... Et le fait que sur votre site, vous publiez en fait toute votre documentation, vos scripts, etc., ça permet en fait aux gens de se l'approprier de façon individuelle sans forcément avoir à vous solliciter.
C'est ça. De toute façon, dans les autres établissements, on a besoin d'un référent. Et on a fait des tutos vidéo y compris. Enfin, vraiment, il faut aller voir le site.
D'accord. OK. En tout cas, c'était passionnant. Et effectivement, il faut aller voir le site. Je vais juste finir par la question traditionnelle finale de l'émission. Donc, pour conclure, en deux minutes chacun, quels sont les éléments que vous souhaitez que les gens retiennent de votre intervention? Qui commence?
Alors, j'y vais. Moi, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que la preuve par l'usage a été faite. C'est faisable, il n'y a que des avantages et on coche toutes les cases. Éthique, solidaire, durable, pédagogique. Donc, utiliser les logiciels libres en éducation, c'est une vraie solution qui doit être mise à côté des logiciels propriétaires. Il faut présenter les deux. En l'état actuel, on présente à 95% la solution propriétaire. Et ça, ça nous pose problème. C'est de notre devoir d'éduquer les élèves à cette alternative.
Ok, merci Romain. Pascal ?
Alors, ça a été comme une évidence. Le confinement strict a certainement été l'élément déclencheur. On ne peut pas, dans notre monde aujourd'hui, ignorer cette alternative au GAMAM. Acculturer les jeunes à la diversité numérique, qu'ils deviennent acteurs de leur environnement numérique, c'est là notre devoir. Il en va de notre responsabilité en tant qu'enseignants. L'école doit être un lieu d'émancipation. Donnons à notre jeunesse les bonnes cartes pour évoluer en pleine connaissance dans ce monde numérique.
Bah écoute, merci Pascal, merci à vous deux donc pour cette superbe échange et vous avez des félicitations sur le salon web. On vous dit ne soyez pas modeste, vous êtes formidable. Et je m'associe à ces messages donc notamment de Marie Odile et de Étienne qui dit chouette échange. Donc c'était Romain Debailleul et Pascal Bell donc du lycée Carnot de Bruay-la-Buissière, donc tous les deux professeurs à ce lycée. Et le site sur lequel on peut retrouver tout ce que vous faites, c'est j'ai un trou de mémoire.
Aidez-moi. Math-code.fr, math avec un S.
Voilà, math-code.fr avec math avec un S. Et je précise juste pour finir, pour les personnes qui s'intéressent à Python, un langage de programmation dont on a parlé tout à l'heure, que vendredi soir, donc à Paris, l'April, on a le plaisir d'accueillir une réunion de l'association francophone de Python, à la présence d'un des auteurs de Python qui a fait un livre programmé en Python, débuté en Python, je ne sais plus en tout cas. Donc c'est vendredi 26 avril à partir de 19h, et pour avoir les informations, adresses et tout, vous allez sur april.org. Donc vous êtes évidemment les bienvenus, que vous connaissiez ou pas Python. Donc merci Romain, merci Pascal, je vous souhaite une belle fin de journée, puis à bientôt.
Merci à vous.
Merci à vous.